Ils partirent une heure plus tard, car ils devaient déjeuner chez les vieux, prévenus depuis quelques jours. Un fiacre découvert et rouillé les emporta, avec un bruit de chaudronnerie secouée. Ils suivirent un long boulevard assez laid, puis traversèrent des prairies où coulait une rivière. Puis ils commencèrent à gravir la côte. Madeleine, fatiguée, s'était assoupie sous la caresse pénétrante du soleil qui la chauffait délicieusement au fond de la vieille voiture, comme si elle eût été couchée dans un bain tiède de lumière et d'air champêtre. Son mari la réveilla. « Regarde » dit-il. Il venait de s'arrêter aux deux tiers de la montée, à un endroit renommé pour la vue, où l'on conduit tous les voyageurs. On dominait l'immense vallée, longue et large, que le fleuve clair parcourait d'un bout à l'autre avec de grandes ondulations. On le voyait venir de là-bas, taché par des îles nombreuses et décrivant une courbe avant de traverser Rouen. Puis, la ville apparaissait sur la rive droite, un peu noyée dans la brume matinale, avec des éclats de soleil sur ses toits et ses 1000 clochers légers, pointus ou trapus, frêles et travaillés comme des bijoux géants, ses tours carrées ou rondes, coiffées de couronnes héraldiques, ses beffrois, ses clochetons, tout le peuple gothique des sommets d'église que dominait la flèche aiguë de la cathédrale, surprenante aiguille de bronze, laide, étrange et démesurée, la plus haute qui soit au monde. Mais en face, de l'autre côté du fleuve, s'élevaient rondes et renflées à leur fête les minces cheminées d'usines du vaste faubourg de Saint-Sever. Plus nombreuses que leurs frères, les clochers, elles dressaient, jusque dans la campagne lointaine, leurs longues colonnes de briques et soufflaient dans le ciel bleu leur haleine noire de charbon. Et la plus élevée de toutes, aussi haute que la pyramide de Khéops, le second des sommets du haut travail humain, presque l'égal de sa fière commère, la flèche de la cathédrale, la grande pompe à feu de la foudre, semblait la reine du peuple travailleur et fumant des usines, comme sa voisine était la reine de la foule pointue des monuments sacrés. Là-bas, derrière la ville ouvrière, s'étendait une forêt de sapins, et la Seine, ayant passé entre les deux cités, continuait sa route, longeait une grande côte onduleuse boisée en haut et montrant par places ses eaux de pierre blanche, puis elle disparaissait à l'horizon, après avoir encore décrit une longue courbe arrondie. On voyait des navires, montant et descendant le fleuve, traînés par des barques à vapeur, grosses comme des mouches, qui crachaient une fumée épaisse. Des îles, étalées sur l'eau, s'alignaient toujours l'une au bout de l'autre, ou bien laissant entre elles de grands intervalles, comme les grains inégaux d'un chapelet verdoyant. Le cocher du fiacre attendait que les voyageurs eussent fini de s'extasier. Il connaissait par expérience la durée de l'admiration de toutes les races de promeneurs. Mais quand il se remit en marche, Duroy aperçut soudain, à quelques centaines de mètres, deux vieilles gens qui s'en venaient, et il sauta de la voiture en criant « Les voilà ! Je les reconnais !» C'étaient deux paysans, l'homme et la femme, qui marchaient d'un pas régulier, en se balançant et se heurtant parfois de l'épaule. L'homme était petit, trapu, rouge et un peu ventru, vigoureux malgré son âge. La femme, grande, sèche, voûtée, triste. La vraie femme de peine des champs qui a travaillé dès l'enfance et qui n'a jamais ri, tandis que le mari blaguait en buvant avec les pratiques. Madeleine aussi était descendue de voiture et elle regardait venir ces deux pauvres êtres avec un serrement de cœur, une tristesse qu'elle n'avait point prévue. Ils ne reconnaissaient point leur fils, ce beau monsieur, et ils n'auraient jamais deviné leur bru dans cette belle dame en robe claire. Ils allaient, sans parler, vite, au devant de l'enfant attendu, sans regarder ces personnes de la ville que suivait une voiture. Ils passaient. Georges, qui riait, cria « Bonjour, paix du roi !» Ils s'arrêtèrent net, tous les deux, stupéfaits d'abord, puis abrutis de surprise. La vieille se remit la première et balbutia sans faire un pas.
« C'est été notre fieu !»
Le jeune homme répondit « Mais oui, c'est moi, la mée du roi !» et marchant à elle, il l'embrassa sur les deux joues d'un gros baiser de fils. Puis il frotta ses tempes contre les tempes du père, qui avait ôté sa casquette, une casquette à la mode de Rouen, en soie noire très haute, pareille à celle des marchands de bœufs. Puis Georges annonça « Voilà ma femme ». Et les deux campagnards regardèrent Madeleine. Ils la regardèrent comme on regarde un phénomène, avec une crainte inquiète, jointe à une sorte d'approbation satisfaite chez le père, à une inimitié jalouse chez la mère. L'homme, qui était d'un naturel joyeux, tout imbibé par une gaieté de cidre doux et d'alcool, s'enhardit et demanda, avec une malice au coin de l'œil, « Pouvons-ils embrasser tout de même ?» Le fils répondit « Parbleu !» Et Madeleine, mal à l'aise, tendit ses deux joues au béco sonore du paysan qui s'essuya ensuite les lèvres d'un revers de main. La vieille, à son tour, baisa sa belle-fille avec une réserve hostile. Non, ce n'était point la bru de ses rêves. La grosse et fraîche fermière, rouge comme une pomme et ronde comme une jument poulinière. Elle avait l'air d'une traînée, cette dame-là, avec ses falbalas et son musc, car tous les parfums pour la vieille étaient du musc. Et on se remit en marche, à la suite du fiacre qui portait la malle des nouveaux époux. Le vieux prit son fils par le bras, et le retenant en arrière, il demanda avec intérêt « Eh ben, ça va-t-il les affaires ?»« Mais oui, très bien. »«
Allons, suffit, tant mieux. Dis-moi, ta femme, es-tu aisé ?»
Georges répondit « 40 000 francs !» Le père poussa un léger sifflement d'admiration et ne put que murmurer « Bougre !» tant il fut ému par la somme. Puis il ajouta avec une conviction sérieuse « Non, 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 c'est une belle femme !» car il la trouvait de son goût, lui, et il avait passé pour connaisseur dans le temps. Madeleine et la mère marchaient côte à côte sans dire un mot. Les deux hommes les rejoignirent. On arrivait au village, à un petit village en bordure sur la route, formé de 10 maisons de chaque côté. Maisons de bourg et masures de ferme, les unes en briques, les autres en argile, celles-ci coiffées de chaume et celles-là d'ardoise. Le café du père du roi, à la belle vue, une bicoque composée d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, se trouvait à l'entrée du pays, à gauche. Une branche de pin, accrochée sur la porte, indiquait, à la mode ancienne, que les gens altérés pouvaient entrer. Le couvert était mis dans la salle du cabaret, sur 2 tables rapprochées et cachées par 2 serviettes. Une voisine, venue pour aider au service, salua d'une grande révérence en voyant apparaître une aussi belle dame, puis reconnaissant Georges, elle s'écria «
Seigneur Jésus !» C'est-il tes pitio ?
Il répondit gaiement, oui, c'est moi, l'amé Brulin. Et il l'embrassa aussitôt, comme il avait embrassé père et mère. Puis il se tourna vers sa femme. Viens dans notre chambre, dit-il, tu te débarrasseras de ton chapeau. Il la fit entrer par la porte de droite, dans une pièce froide, carrelée, toute blanche, avec ses murs peints à la chaux et son lit aux rideaux de coton. Un crucifix, au-dessus d'un bénitier, et 2 images coloriées représentant Paul et Virginie sous un palmier bleu et Napoléon Ier sur un cheval jaune, ornaient seul cet appartement propre et désolant. Dès qu'ils furent seuls, il embrassa Madeleine. « Bonjour, Mad. Je suis content de revoir les vieux. Quand on est à Paris, on n'y pense pas, et puis quand on se retrouve, ça fait plaisir tout de même. » Mais le père criait en tapant du poing la cloison.
« Allons, allons, la soupe est cuite !»
Et il fallut se mettre à table. Ce fut un long déjeuner de paysans, avec une suite de plats mal assortis, une andouille après un gigot, une omelette après l'andouille. Le père du roi, mis en joie par le cidre et quelques verres de vin, lâchait le robinet de ses plaisanteries de choix, celles qu'il réservait pour les grandes fêtes, histoires grivoises et malpropres arrivées à ses amis, affirmait-il. Georges, qui les connaissait toutes, riait cependant, grisé par l'air natal, ressaisi par l'amour inné du pays, des lieux familiers dans l'enfance, par toutes les sensations, tous les souvenirs retrouvés, toutes les choses d'autrefois revues, des riens, une marque de couteau dans une porte, une chaise boiteuse rappelant un petit fait, des odeurs de sol, le grand souffle de résine et d'arbres venus de la forêt voisine, les senteurs du logis, du ruisseau, du fumier. La mère du roi ne parlait point, toujours triste et sévère, épiant de l'œil sa brue avec une haine éveillée dans le cœur, une haine de vieille travailleuse, de vieille rustique aux doigts usés, aux membres déformés par les dures besognes, contre cette femme de ville qui lui inspirait une répulsion de maudite, de réprouvée, d'être impure, fait pour la fainéantise et le péché. Elle se levait à tout moment pour aller chercher les plats, pour verser dans les verres la boisson jaune et aigre de la carafe, ou le cidre roux, mousseux et sucré, des bouteilles dont le bouchon sautait comme celui de la limonade gazeuse. Madeleine ne mangeait guère, ne parlait guère, demeurait triste avec son sourire ordinaire figé sur les lèvres, mais un sourire morne, résigné. Elle était déçue, navrée. Pourquoi ? Elle avait voulu venir. Elle n'ignorait point qu'elle allait chez des paysans, chez des petits paysans. Comment les avait-elle donc rêvés ? Elle qui ne rêvait pas d'ordinaire. Le savait-elle ? Est-ce que les femmes n'espèrent point toujours autre chose que ce qui est ? Les avait-elles vues de loin plus poétiques ? Non, mais plus littéraires peut-être, plus nobles, plus affectueux, plus décoratifs. Pourtant, elle ne les désirait point distinguer comme ceux des romans. D'où venait donc qu'ils choquaient par mille choses menues, invisibles, par mille grossièretés insaisissables, par leur nature même de rustre, par ce qu'ils disaient, par leurs gestes et leur gaieté ? Elle se rappelait sa mère à elle, dont elle ne parlait jamais à personne, une institutrice séduite, élevée à Saint-Denis et morte de misère et de chagrin quand Madeleine avait 12 ans. Un inconnu avait fait élever la petite fille. Son père, sans doute. Qui était-il ? Elle ne le sut point au juste, bien qu'elle eût de vagues soupçons. Le déjeuner ne finissait pas. Des consommateurs entraient maintenant, serraient les mains du père du roi, s'exclamait en voyant le fils et, regardant de côté la jeune femme, clignait de l'œil avec malice, ce qui signifiait « Sacré matin, elle n'est pas piquée des vers, l'épouse à Georges du roi !» D'autres moins intimes s'asseyaient devant les tables de bois et criaient « Un litre, une chope, deux fines, un raspail !» Et ils se mettaient à jouer au domino en tapant à grand bruit les petits carrés d'os blancs et noirs. La mère du roi ne cessait plus d'aller et de venir, servant les pratiques avec son air lamentable, recevant l'argent, essuyant les tables du coin de son tablier bleu. La fumée des pipes de terre et des cigares d'un sou emplissait la salle. Madeleine se mit à tousser et demanda « Si nous sortions, je n'en puis plus. » On n'avait point encore fini. Le vieux du roi fut mécontent. Alors elle se leva et alla s'asseoir sur une chaise devant la porte, sur la route, en attendant que son beau-père et son mari eussent achevé leur café et leur petit verre. Georges la rejoignit bientôt. « Veux-tu dégringoler jusqu'à la Seine ? » dit-il. Elle accepta avec joie. « Oh oui, allons. » Ils descendirent la montagne, louèrent un bateau à croiser, et ils passèrent le reste de l'après-midi le long du Nil, sous les saules, somnolents tous deux, dans la chaleur douce du printemps et bercés par les petites vagues du fleuve. Puis ils remontèrent à la nuit tombante. Le repas du soir, à la lueur d'une chandelle, fut plus pénible encore pour Madeleine que celui du matin. Le père du roi, qui avait une demi-soulerie, ne parlait plus. La mère gardait sa mine revêche. La pauvre lumière jetait sur les murs gris les ombres des têtes avec des nez énormes et des gestes démesurés. On voyait parfois une main géante lever une fourchette pareil à une fourche vers une bouche qui s'ouvrait comme une gueule de monstre quand quelqu'un, se tournant un peu, présentait son profil à la flamme jaune et tremblotante. Dès que le dîner fut achevé, Madeleine entraîna son mari dehors pour ne point demeurer dans cette salle sombre où flottait toujours une odeur âcre de vieilles pipes et de boissons répandues. Quand ils furent sortis, « Tu t'ennuies déjà ?» dit-il. Elle voulut protester, il l'arrêta. « Non, je l'ai bien vu. » « Si tu le désires, nous partirons demain. » Elle murmura « Oui, je veux bien. » Ils allaient devant eux doucement, C'était une nuit tiède, dont l'ombre caressante et profonde semblait pleine de bruits légers, de frôlements, de souffles. Ils étaient entrés dans une allée étroite, sous des arbres très hauts, entre deux taillis d'un noir impénétrable. Elle demanda « Où sommes-nous ? » Il répondit « Dans la forêt. » « Elle est grande ? » « Très grande. Une des plus grandes de la France. » Une senteur de terre, d'arbres, de mousse. Ce parfum frais et vieux des bois touffus, fait de la sève des bourgeons et de l'herbe morte et moisie des fourrés, semblait dormir dans cette allée. En levant la tête, Madeleine apercevait des étoiles entre les sommets des arbres, et bien qu'aucune brise ne remuât les branches, elle sentait autour d'elle la vague palpitation de cet océan de feuilles. Un frisson singulier lui passa dans l'âme et lui courut sur la peau. Une angoisse confuse lui serra le cœur. Pourquoi ? Elle ne comprenait pas. Mais il lui semblait qu'elle était perdue, noyée, entourée de périls, abandonnée de tous, seule, seule au monde, sous cette voûte vivante qui frémissait là-haut. Elle murmura « J'ai un peu peur. Je voudrais retourner. Eh bien, revenons. Et nous repartirons pour Paris demain ? Oui, demain. Demain matin ? Demain matin, si tu veux. » Ils rentrèrent. Les vieux étaient couchés. Elle dormit mal, réveillée sans cesse par tous les bruits nouveaux pour elle de la campagne, les cris des chouettes, le grognement d'un porc enfermé dans une hutte contre le mur, et le chant d'un coq qui claironna dès minuit. Elle fut levée et prête à partir aux premières lueurs de l'aurore. Quand Georges annonça aux parents qu'il allait s'en retourner, ils demeurèrent saisis tous deux. Puis ils comprirent d'où venait cette volonté. Le père demanda simplement « Je te le verrai bientôt. » « Mais oui, dans le courant de l'été. »
« Allons, tant mieux. »
La vieille grogna
« Je te souhaite de ne point regretter ce que t'as fait. »
Il leur laissa 200 francs en cadeau pour calmer leur mécontentement. Et le fiacre, qu'un gamin était allé chercher, ayant paru vers 10 heures, les nouveaux époux embrassèrent les vieux paysans et repartirent. Comme ils descendaient la côte, Duroy se mit à rire.
« Voilà, dit-il, je t'avais prévenu. Je n'aurais pas dû te faire connaître monsieur et madame Duroy de Cantel, père et mère. »
Elle se mit à rire aussi et répliqua « Je suis enchantée maintenant. Ce sont de braves gens que je commence à aimer beaucoup. Je leur enverrai des gâteries de Paris. » Puis elle murmura « Duroy de Cantel. Tu verras que personne ne s'étonnera de nos lettres de faire part. Nous raconterons que nous avons passé 8 jours dans la propriété de tes parents. » Et se rapprochant de lui, elle effleura d'un baiser le bout de sa moustache. « Bonjour, Jo. » Il répondit « Bonjour, Mad », en passant une main derrière sa taille. On apercevait au loin, dans le fond de la vallée, le grand fleuve déroulé comme un ruban d'argent sous le soleil du matin, et toutes les cheminées des usines qui soufflaient dans le ciel leurs nuages de charbon, et tous les clochers pointus dressés sur la vieille cité.